avoir découvert la nécessité de poser un principe, une source de vie, d'unité à toute notre vie. On peut voir que le mot âme, selon les traditions religieuses, correspond bien à ce principe de vie. Et on précise les liens qui existent entre l'âme et le corps. Alors, pour connaître l'âme, connaître notre âme, il ne faut pas l'oublier, une connaissance immédiate de la présence de l'âme en nous par le point de vue de l'intériorité. Connaissance affective. Il y a un certain amour de soi. Il y a un amour de soi dans ce qu'il y a de plus profond, de plus intime, ce qui est à la source de notre propre personne, ce qui est à la source de notre vie intellectuelle, de notre capacité d'aimer, de l'amour d'amitié. On peut aimer l'âme de son ami. Et là, il y a une connaissance affective de nous-mêmes et de notre ami. On aime dans l'ami ce qu'il y a en lui de plus profond, de plus intime, de plus lui-même. C'est son âme. Puis il y a une certaine expérience intérieure très particulière du reste. Elle est plus ou moins forte selon que nous avons une vie intérieure plus ou moins grande. C'est une expérience qui ne peut pas être transmise aux autres. Elle est propre à chacun d'entre nous. Mais on a cette expérience affective de notre âme, de la présence d'une source de vie, d'amour. Et puis, il y a une connaissance philosophique de l'âme par l'intuition. Ce que je vous disais, la diversité de nos opérations et de l'unité de nous-mêmes, source de ces diverses opérations. Et que la diversité des opérations ne peut pas expliquer cette unité. Il y a donc nécessité de poser un principe immanent à nous-mêmes qui peut seul être source de cette unité, de toute cette diversité d'opérations. Et ce principe est présent à notre corps puisque ça fait partie de notre vie. Toutes les opérations de notre vie végétative, toutes les opérations de notre vie passionnelle, et que c'est le même principe qui est source de notre pensée. Et vous disiez en terminant, je reviens un instant là-dessus, ce qu'on me l'a demandé, notre pensée, nos actes de réflexion, notre manière de faire un peu de philosophie, on atteint un principe qui est au-dessus de tout ce que représente le point de vue sensible, le point de vue matériel. Et ce principe a un mode universel. Alors vous voyez, ici vous devrez se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'universel? On y reviendra si on a le temps. Parce que l'universel est justement au-delà de la multiplicité. Et ramène la multiplicité à l'unité. On saisit donc quelque chose qui est source de nos opérations intellectuelles qui sont au-delà du sensible, de nos opérations sensibles et de nos opérations végétatives. Et ce quelque chose doit être donc ce qui détermine notre corps, qui lui donne la vie, forme de notre corps et en même temps source de toute notre vie spirituelle. l'art, c'est là où le philosophe doit étudier ce que c'est que l'art. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Alors, nous allons l'étude des trois degrés de vie et comprendre au niveau de la vie ce que représente la liberté. Nous avons vu la liberté au niveau de l'activité éthique et au niveau de l'activité artistique. En philosophie du vivant, on doit comprendre comment la liberté implique le concours de l'intelligence et de l'amour, de la volonté. Il n'y a pas d'acte libre en dehors de l'amour et de la volonté. D'où la question du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Après avoir découvert la philosophie de la matière, la philosophie du vivant, il se pose à nous la question de l'unité et de la diversité de toutes ces expériences que nous avons. Le travail, l'amour d'amitié, la solidarité, ce qui est mu, ce qui se meut. Toutes ces expériences ont quelque chose de commun. Et chacune a quelque chose d'unique. Ce quelque chose de commun, c'est que toutes ces expériences atteignent une réalité autre que moi. Que j'atteins par le jugement d'existence. Je peux donc regarder ce jugement d'existence pour lui-même. Et c'est en regardant ce jugement d'existence pour lui-même que j'entre en métaphysique, en philosophie première. Et je voudrais que vous compreniez bien ça, parce que trop facilement, on considère la métaphysique, je vois Heidegger. On considère la métaphysique comme quelque chose qui s'est posé, on ne sait pas très bien comment. C'est ça qui m'a toujours gêné quand on m'a fait un cours de métaphysique. On me dit, ensuite il y a la métaphysique. On dit, pourquoi? Pourquoi faut-il la métaphysique? Ah oui, il faut regarder l'être. J'ai pas du tout envie de le regarder. Comme disait le bon père m'a donné, on a l'intuition de l'être quand on a 40 de fièvre. Alors on voit un petit nuage. C'est l'être. Non, c'est pas l'être. Il y a historiquement Parménide. Historiquement Parménide. Et c'est une intuition. C'est une révélation. C'est la déesse. À ce propos-là, lisez le poème de Parménide. On ne peut pas faire de philosophie sans avoir lu le poème de Parménide. J'avais envie de le lire, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Et une bonne traduction. La traduction Saint-Jean, elle est bonne. Parce que le poème de Parménide a été tellement mal traduit. Il faut le traduire dans une traduction qui nous fait comprendre que c'est l'introduction en philosophie grecque de qu'est-ce que c'est que l'être. Il est. C'est pour ça que Parménide a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la philosophie grecque. Parménide, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et puis Parménide est remis très en lumière avec Heidegger. Heidegger s'appuie entièrement sur Parménide. Et si vous avez le temps, lisez le commentaire d'Heidegger de Parménide. C'est intéressant, oui, parce que ça noue 6e siècle avant Jésus-Christ, 20e siècle. Le même bonhomme. intéressant de voir ça. Il y a un pont aérien de la pensée. Et il y a une rencontre entre Heidegger et Parménide. Comme il y a une rencontre de Hegel et d'Héraclite. Tout coule. La guerre est le père de toute chose. Ce sont des fragments d'Hésiode, d'Héraclite, que Hegel aime beaucoup. Hegel, c'est Héraclite. Heidegger, c'est Hésiode. Après, vous avez Aristote. Aristote, c'est le père de la métaphysique. Et Aristote dit ceci. Aristote dit ceci que vous savez que le mot méta physique n'est pas d'Aristote. Ce sont les bibliothécaires. Les bibliothécaires qui n'ont pas lu l'œuvre d'Aristote. Les bibliothécaires ont redécouvert tous les livres d'Aristote. Alors ils ont vu une quantité de livres physiques. Tout d'un coup, un autre livre qui n'est plus de la physique, qui n'est plus de la philosophie du mouvement. Alors ils ont dit méta, qui veut dire après. Après la physique. Donc c'est les bibliothécaires qui, au 5e siècle, je crois, ont dit métaphysique. Donc il ne faut plus employer ce mot. Ça demande l'emploi. Alors vous pouvez l'employer. Mais c'est les bibliothécaires. Aristote appelle ce livre philosophie première. J'aime beaucoup mieux ça. D'abord parce que c'est le mot d'Aristote. Et c'est le mot que Husserl a repris. Donc vous voyez, c'est le mot officiel aujourd'hui. On aurait tout le temps dire philosophie première. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que métaphysique n'exprime rien du tout. Philosophie première exprime que c'est la philosophie ultime. Première dans l'ordre de noblesse. C'est le dernier effort philosophique. Enfin. C'est extrêmement important. Et Aristote appelle cette philosophie première la philosophie du tout on et on, qu'on traduit en latin le ens in quantum. Ens. Vous voyez, le et grec se traduit in quantum, en tant que. En français, comment faut-il traduire ça? Traduisez ce qui est. En tant qu'il est. Le « et », on dit en logique, une réduplication. On regarde dans ce qui est l'être. Il est. Oui. Donc c'est, voilà ce qu'on veut regarder. Ens in quantum ens, to on eon, ce qui est en tant qu'être. Après Aristote, Thomas d'Aquin a commenté, comme il sait le faire, la philosophie première d'Aristote, sauf les deux derniers livres, qui sont des livres de critique. Après Thomas d'Aquin, la philosophie première est tombée très bas. On n'en parle plus. Il faut attendre de fait le monde actuel. Avant, entre Aristote et Thomas d'Aquin, il y avait Avicenne. Lénine a commenté la philosophie première d'Aristote. Pas l'oublier. Quand j'enseignais un converti du marxisme, dans les conversations particulières, il revenait toujours à Lénine. Ah oui, Lénine a dit ça, mais tu veux m'arrêter. Si on commente Aristote, mais on commente Aristote. C'est très curieux, c'est intéressant du reste. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont commenté la philosophie première d'Aristote. Pas beaucoup. Rassembler tous les commentaires de la philosophie première d'Aristote, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est pas commode, c'est difficile. Alors les choses difficiles, on laisse un peu tomber. Husserl a commenté surtout les seconds analytiques, qui est l'aspect logique. Alors, nous sommes, nous, en présence des idéologies athées. J'ai vu avec vous qu'il fallait reprendre l'expérience. L'expérience interne et l'expérience externe. Pour revenir à ça. Or, qu'est-ce qu'il y a de commun à travers les cinq expériences que nous avons vues? Travail, amour d'amitié, solidarité, ce qui est vu, ce qui se veut. Ces cinq expériences ont quelque chose de commun, c'est qu'elles impliquent un jugement d'existence. Ceci est. Quand je travaille le poids. Il existe. C'est bien évident. Et le charpentier ne se pose pas la question. Et lui-même existe. L'amour d'amitié, l'ami existe. La solidarité, celui qui travaille avec moi existe, et le bien commun existe. Ce qui est mu existe, ce qui se meut existe. Je vois donc qu'il y a quelque chose de commun dans toutes ces expériences qui n'est pas mis en pleine lumière, qui est à l'état implicite. Je peux donc, et non seulement je peux, mais je dois, mettre en pleine lumière ce jugement d'existence qui est présent dans toutes mes expériences. J'explicite ce jugement d'existence. Et si j'explicite ce jugement d'existence, ceci est, vous allez tout de suite comprendre, je peux. Ceci, c'est tout ce qu'on veut. C'est la vache, c'est la table, c'est moi. On dit que Raïssa, l'épouse de Maritain, que j'ai bien connue, Raïssa disait qu'elle avait eu l'intuition de l'être en regardant son chat, ce petit minet. Et elle a dit, ce chat existe. Comment ça se fait? Le chat existe, j'existe. Le chat existe à sa manière. J'existe à ma manière. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est que exister? Alors vous voyez, c'est pour ça que c'est si important de voir que le ceci, c'est le chat, la vache, Raïssa. Hein, c'est ceci. C'est chacun d'entre vous. Nous existons. C'est bien évident. Si vous allez au marché et que vous voyez des carottes et que vous demandez à la brave femme qui vous vend des carottes et qui vient de sa campagne, est-ce que ces carottes existent? Non. C'est rien, il est fou. Un peu malade. Et pourtant, c'est un problème réel. J'existe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous voyez, quand vous dites ceci, vous mettez l'accent sur ceci. Ça n'a aucun intérêt. C'est la vache, c'est Raïssa, c'est la table. Je sais bien qu'ils ont existé. Ou vous mettez l'accent sur « et ». Et c'est là où Raïssa dit « j'ai eu l'intuition de l'être ». Parce que j'ai mis en lumière « et » qui regarde aussi bien le travail, l'ami, celui qui travaille avec moi, ce qui se meut. Je mets donc en pleine lumière ce dénominateur commun à l'égard de toutes ces réalités. Et je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? A été posée explicitement par Heidegger. Il n'avait plus été posé depuis très longtemps. C'est pour ça que Heidegger a dit l'oubli de l'être. Et toute sa vie, en quittant Husserl, puisqu'il était disciple d'Husserl au point de départ, en quittant Husserl, il a voulu remettre en lumière l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est un de ses livres. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que la métaphysique ? Il a cherché toute sa vie là-dessus, on peut dire. Tout Heidegger, c'est tout le temps ça. Alors, c'est intéressant, parce que, comme il est contemporain, je fais de la métaphysique pas seulement parce que, de fait, je vois que c'est intéressant. Heidegger l'a dit, est-ce que je peux suivre Heidegger ? Que ce problème a été posé avec Parménide, avec Aristote, avec Thomas d'Aquin. Et si je ne cherche pas à comprendre ce que c'est que cette philosophie première, je ne comprends rien à Thomas d'Aquin. C'est la clé. Si je veux lire intelligemment Thomas d'Aquin, il faut savoir ce que c'est que cette philosophie première. Ens in quantum ens. Ce qui est en tant qu'il. Et puis si je veux comprendre la philosophie contemporaine, Heidegger joue un très grand rôle. Si je veux comprendre la philosophie contemporaine, je dois regarder quelqu'un comme Hegel. Or, Hegel dit l'affirmation « ceci est ». Ceci n'est pas. La synthèse, c'est le devenir. La dialectique de Hegel repose sur cette contradiction. Ceci est, ceci n'est pas. Selon Aristote, je ne peux pas affirmer en même temps ceci est et ceci n'est pas, puisqu'ils sont contradictoires. Les contradictoires ne peuvent pas exister en même temps. Hegel dit, il fait la synthèse des contradictoires. Et que c'est le devenir. Le devenir implique l'être, et le devenir implique le non-être. Donc vous voyez, c'est le gros problème de Hegel, de Heidegger. Alors, c'est leur mérite d'avoir remis ce problème de l'être en pleine lumière. D'une manière que je n'accepte pas, qui n'est pas celle de Thomas d'Aquin, qui n'est pas celle d'Aristote, qui n'est pas celle de Parménide, qui est une manière nouvelle. Descartes avait dit cogito ergo sum. Et Descartes, en disant ça, avait renversé le problème puisqu'il avait mis la pensée à mon être. Est-ce que je dois suivre Descartes ou est-ce que je dois suivre Aristote? Est-ce que je dois suivre Heidegger? Dois-je suivre Hegel? Tout dépend de la philosophie première que vous avez. Si vous voulez faire ça intelligemment, si vous faites ça les yeux bandés en disant « on va suivre Hegel parce que selon le suffrage universel, il y a des quantités de théologiens qui sont hegeliens aujourd'hui. Tous les jésuites sont hegeliens, tous les dominicains sont heideggeriens. Et comme les jésuites sont plus nombreux, il vaut mieux suivre Hegel. » N'est-ce pas ? Alors vous voyez ça, ce suffrage universel, ça signifie rien du tout. Je veux savoir aujourd'hui si c'est légitime de suivre Hegel, si c'est légitime de suivre Heidegger, si je cherche la vérité. Oui, là, on touche le problème fondamental et ultime au plan des philosophiques. Ce qu'on appelle philosophie première, c'est la philosophie qui se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Alors, vous voyez bien comment se pose l'interrogation. Quand Raïssa parle de l'intuition de l'être, on devrait dire l'interrogation de l'être. Parce qu'en réalité, Raïssa a été en admiration devant ce fait que le miné existe. Ce petit chat, il existe. Et qu'il existait. Et qu'il y avait un œcuménisme dans l'être. Elle existait. Et le chat existait. Donc tous les deux existaient. Et je peux ajouter la vache. Ça augmente le communisme. La table. Je peux ajouter tout le monde. Tout le monde existe. Tu vois, toutes les réalités que je vois qui me sont contemporaines, ça existe. Alors, quand je suis dans cet état d'admiration que l'être unifie tout, et j'ajoute, et l'être diversifie tout. L'être fait l'unité et fait la diversité. Et c'est ça qui me met en état d'admiration. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Il n'y a que l'être qui fait ça. La vie ne fait pas le communisme. La lune ne vit pas. Le soleil ne vit pas. Il y a des petits cailloux qui ne vivent pas. Il y a beaucoup de vivants, mais toi n'es pas vivant. Il y a que l'être qui fait l'unanimité, c'est curieux ça. Pourquoi l'être fait l'unanimité? On comprend très bien que devant cette espèce d'admiration, elles disent intuition d'être, en réalité interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors ça, je voudrais que vous ayez le sens de cette interrogation fondamentale qui fonde toutes les autres interrogations. Le jugement d'existence, ceci est, c'est un jugement méta-expérience. C'est au-delà de l'expérience. Vous n'avez jamais touché l'être pur. Jamais. Vous touchez la table qui existe. Je me touche, j'existe. Mais l'être pur, on serait électrocuté. Hein. Toucher l'être pur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Dans toute sa pureté. C'est, bon, posez-vous la question et ayez l'état d'admiration de Raïssa, l'intuition de Raïssa, en disant, ce petit chat existe, j'existe. Et en voyant que l'être fait l'œcuménisme universel. Alors, pourriez-vous poser la question, si Dieu existe, alors, ah oui, l'être va jusqu'à Dieu. Ah, ça, je ne sais pas. Philosophiquement, je ne sais pas. Je peux me poser la question, on verra. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que l'être. Je pars donc de ce jugement d'existence. Je n'ai pas l'expérience du jugement d'existence, mais je suis présent au jugement d'existence. Ce jugement d'existence, je suis lucide, je le pose, j'existe, je suis. Et je dis ça, non pas je pense, Donc je suis, je dis tout de suite. Donc je vais bien plus vite que Descartes. Descartes dit je pense, donc je suis. Moi je n'ai pas besoin de dire je pense, je suis. Mais Descartes avait mis ça, c'est inutile. C'est complètement inutile de prendre le détour de sa pensée pour dire qu'il existe. Toute pensée implique que je suis. Quand vous mangez, arrêtez un instant de manger, je suis. Quand vous travaillez, arrêtez un instant, je suis. Ne le répétez pas trop, parce que pendant toute la journée, vous entendrez je suis, je suis, je suis. Alors vous serez hanté de ces questions-là. Quand je pose la question, ceci est et je suis. C'est important. Ici, je suis dans la ligne de Descartes. Ici, Aristote. C'est curieux. C'est Descartes qui n'est en pleine lumière de je suis. Aristote n'a jamais dit ego à lui. Jamais. Il n'a jamais dit dans toute son œuvre. C'est Descartes le premier qui a dit je suis. C'était tellement important. Parce qu'à partir de là, la philosophie a tourné. C'est inversé. C'est l'idée qui est devenue première. Cogito. Ergo sum. Ça, c'est des sujets d'examen. Parce qu'on dit dans la... Comme Heidegger, c'est des sujets d'examen, ça. Aristote, rarement. Quand on fait des anniversaires. Autrement, normalement, c'est Descartes, Heidegger, Kant, Husserl, tout ce qui est là. Immédiatement. Mais pour comprendre Heidegger, même pour comprendre Husserl, et pour comprendre Descartes, il faut regarder le « je suis Descartes ». Alors, pourquoi, la grosse question est celle-là, pourquoi je ne commence pas la philosophie première par le « je suis » ? Parce que le « je suis » a au moins l'avantage d'être quand même quelque chose de bien plus sélectif que ceci. Et je maintiens qu'il faut maintenir si je suis réaliste à la suite d'Aristote. Si je suis réaliste, je pars du ceci. Si je pars de je suis, je reste dans l'idéalisme. C'est très intéressant là, de voir les deux. Pourquoi ? Parce que ici, je mets la pensée à mon être. Et ici, je mets l'être avant la pensée. Oui, question d'ordre. Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second? Tout simplement. Et à partir de là, ça, Gilson l'a très bien vu. Il a raison de dire ça. Que le réalisme, c'est mettre l'être avant la pensée. Donc, c'est de reconnaître que le jugement d'existence est le jugement le plus fondamental de toute ma vie intellectuelle. Dans ce chemin d'existence où vous dites ceci, alors je ne regarde plus l'être, où je dis est, et je mets en pleine lumière, qu'est-ce que c'est que l'être à l'infinitif, qu'est-ce que c'est que l'être, j'interroge. Je passe du concret à l'abstrait. Ceci est. C'est concret. L'être, c'est abstrait. C'est analogue à ce petit passage très simple de blanc, blancheur. C'est très, très significatif, ça. Avez-vous l'expérience de la blancheur ? Sauf sur l'affiche. Persil. C'est la blancheur. En dehors de là, vous n'avez aucune expérience de la blancheur. Tandis que vous avez vu un mur blanc, vous avez vu le visage blanc. Oui, c'est curieux parce qu'on fait ça constamment. Quand il s'agit d'un acte libre, j'ai l'expérience d'un acte libre, de la liberté. Avez-vous l'expérience de la liberté ? Non. quand même comme sujet la liberté. Alors c'est un petit truc que je vous donne, qui est extrêmement important. Dès que vous êtes en face d'une affirmation abstraite, revenez au concret, pour que vous puissiez comprendre et développer. Parce que devant la blancheur, on ne dit rien. La blancheur. Devant l'être, on ne dit rien. L'être, l'être. La blancheur. La liberté. Ah, un acte libre, ah oui, oui, oui. Quand je passe un examen, est-ce que c'est un acte libre? Vous voyez, ça a l'air de rien. C'est très curieux que le mécanisme de notre intelligence est toujours d'abstraire. Ce qu'on appelle dans le langage moderne thématiser. Je thématise l'être, je thématise la blancheur, je thématise la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire thématiser? Ça veut dire séparer de tout ce qui est antérieur à lui et le poser devant moi. Et je le pose devant moi, je pose l'être devant moi. Tandis que quand je dis ceci est, l'être est relatif à ceci. Tandis que quand je dis être, être devient l'absolu. Blancheur devient l'absolu. Liberté devient l'absolu. C'est ce qu'on appelle une abstraction formelle. C'est ce que saint Thomas appelle une abstraction formelle. Et vous faites ça automatiquement, sans y penser. Et vous cherchez dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc. Qu'est-ce que c'est que l'être? Ce par quoi ce qui est est. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Ce par quoi un acte libre est libre. C'est extraordinaire ça. Hein, c'est très intéressant. Vous renvoyez à l'expérience. Pour savoir ce que c'est que la blancheur, je reviens au mur blanc. Je reviens au visage blanc. Parce que ça, j'expérimente. Et plus j'expérimente de réalité blanche, plus je sais ce que c'est que la blancheur. Celui qui n'a jamais vu la neige, il lui manque quelque chose pour savoir ce que c'est qu'un paysage blanc en plein soleil. C'est sûr, ça. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Bon, alors, ici, comprenez bien, Heidegger dit que ceci est, c'est un étang. Et ce qu'il veut savoir, c'est l'être, dans toute sa pureté. Donc, Heidegger considère que toute expérience ne dépasse jamais l'étang. Et que l'intelligence veut savoir ce que c'est que l'être. Et donc, il faut nier tous les étangs pour penser l'être. Et l'être, je ne le trouve dans toute sa pureté que dans la pensée. Et alors, à ce moment-là, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est penser l'être. Et quand je pense l'être, moi je vois pas grand chose. Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais moi je vois pas grand chose. Pensez l'être. Allez, faites une dissertation là-dessus. Pensez l'être. Vous avez la feuille blanche. Et la feuille blanche me fait penser l'être. L'être, l'être. Le bon père m'a donné le petit nuage quand on a 42 fièvres. Heidegger reste là. Et pour lui, penser l'être, c'est le sommet de toute sa vie. Et à partir de là, il dit ontologisme fondamental. Il ne veut pas autre chose. Parce que l'étang, pour lui, n'est pas l'être. Et si l'étang n'est pas l'être, il ne me dit rien de l'être. Il faut donc le nier. Si je suis réaliste, mon interrogation, elle vient d'où? Mon interrogation, elle vient du jugement d'existence. Ceci est. Et c'est à partir du ceci est qui s'est multiplié, la vache, le chat, moi-même. C'est à partir de là que j'ai posé l'interrogation. Si mon interrogation vient de la diversité de mes jugements d'exister, il y a donc un lien entre le jugement d'existence, le concret et l'abstrait. S'il y a un lien, je peux donc revenir à l'expérience pour comprendre ce qu'est l'être. Et ceci repose tout simplement sur cette réflexion. Quelle est la signification de blanc ? Est-ce que la signification de blanc et de blancheur est la même ? Le problème de la signification, qui est un problème extrêmement actuel. Tout le monde revient au problème de la signification. Qu'est-ce que c'est que la signification ? Mon intelligence, quand elle connaît quelque chose et qu'elle détermine quelque chose, elle a un concept qui implique une signification. Je crois que si on réfléchit tout simplement, on dit que blanc et blancheur ont la même signification, selon deux modes différents, le mode concret et le mode abstrait. Et donc, et être, le concret et l'abstrait ont la même signification. C'est le même verbe être, le présent et l'abstrait. Vraiment être heideggerien pour dire que le présent et l'infinitif n'ont pas la même signification. C'est très curieux ça. Et pourquoi Heidegger dit ça ? C'est que pour Heidegger, la signification n'est donnée que par l'intelligence et inséparablement d'intelligence. L'être n'est pas dans les temps, il n'est que dans la pensée. Et par le fait même, le mode abstrait et le mode concret vont modifier la signification. C'est plus la même signification. L'étant a sa signification et être a sa signification. Mais c'est très important, cette petite distinction qui n'a l'air de rien, et qui est capital parce que ça fait différence entre le néoplatonisme et Aristote, le réalisme et l'idéalisme. Pour l'idéalisme, la signification provient de la pensée. Pour le réalisme, la signification est fondamentalement dans la réalité, et c'est l'intelligence qui l'explique. Alors, pour le réalisme, le mode concret et le mode abstrait ne changent pas la signification. Parce que c'est mon intelligence. Il y a un mode concret de connaissance, il y a un mode abstrait de connaissance. Ce n'est pas la réalité. La réalité est toujours concrète, elle n'est jamais abstraite. C'est donc mon intelligence qui, elle, a deux manières de connaître, concrètement, abstraitement. Et la signification vient de la réalité. Et donc, blanc et blancheur ont même signification, et être ont la même signification. Libre et liberté ont la même signification. Alors que si je suis dans une perspective néoplatonicienne et idéaliste, la signification provient d'intelligence. Il y aura donc deux significations différentes, le concret et l'abstrait. C'est pour ça que la philosophie heideggerienne, la philosophie première de Heidegger, reste à penser l'être. Alors que, pour nous, si nous voulons être réalistes, penser l'être, c'est très bien. C'est tout simplement l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et quand je pose l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je reviens à l'expérience, ceci est. et j'essaie de comprendre dans ceci est ce qui est la cause propre de ce qui est. Il y a là quelque chose qui, pour notre intelligence humaine, est très rude. Aristote disait que c'est quelque chose de divin. Il faut dire qu'il était le premier à découvrir cela. Alors, je vous donne très rapidement, puisque c'est le dernier cours, il faut encore essayer de comprendre certaines choses. Je pose donc la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et je reviens à l'expérience. L'expérience, c'est toujours moi. Le philosophe a l'avantage qu'il transporte avec lui son laboratoire. Son laboratoire, c'est lui. C'est l'homme. Donc il transporte avec lui son laboratoire. Pas besoin de beaucoup d'instruments, mais pensée. Je m'interroge, qu'est-ce que je suis ? Alors, je vous ai dit, je ne peux pas commencer par le « je suis ». Pourquoi ? Parce que quand je dis « je suis », je ne peux pas séparer le « je » que je suis. Le « je suis », il y a une immanence entre les deux. C'est évident que mon existence n'est pas celle de mon voisin. Donc le « je suis » ne me permet pas d'avoir l'intuition de l'être, de saisir le rapport commun entre l'être de la vache et l'être du miné et le mien. Je suis. Et je reste devant ça. Mais si je pars de ceci et, je peux très bien comprendre que le ceci est multiple. Tandis que le jeu, il n'est pas multiple, il est unique. On sait très bien que le jeu est unique. Je ne peux pas le multiplier. Ce n'est pas ton, ce n'est pas toi. Alors, je pars donc de ceci. J'interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Et je cherche quels sont les principes propres de ce qui est en tant qu'il est. Mais le ceci est, je le regarde par rapport à l'homme, Parce que je fais la métaphysique à cause de l'homme, pas à cause de la vache. C'est l'homme qui m'intéresse. Je vous l'ai dit au début. Alors, je m'interroge, qu'est-ce l'être ? Alors je ne vous donne que le résultat, qu'est-ce l'être ? Interrogation. Je découvre alors la détermination première de ce qui est, ce qu'on va appeler substance. En grec, ousion. C'est la substance. On découvre la détermination fondamentale de ce qui est. Pour moi, quelle est ma substance ? C'est mon âme. Mais l'âme est principe de vie. La substance est principe d'être. Mais c'est la même réalité, comprenez bien. Mais en tant que substance, en tant que âme, c'est la même réalité, parce que pour moi, être et vie s'identifient. Vous n'avez pas possibilité de déposer votre vie en mettant c'est mon être. Votre être et votre vie ne font qu'un. Et pourtant, je dois distinguer être et vie. La lune existe, elle ne vit pas. Le soleil existe, il ne vit pas. La vie est autre chose que l'être. Et donc, la source première, propre de l'être et de la vie peuvent être les mêmes dans le vivant. Mais il faut que je distingue. Je me pose la question, en quoi l'être ? En quoi ceci ? En quoi l'être ? Alors ici, c'est la découverte de la cause matérielle. Il y a Averroès et Lénine qui disent qu'il y a une cause matérielle propre de l'être. Pour eux, la matière est cause propre de l'être. Donc, n'existe que des êtres matériels. Il n'y en a pas tellement, il y en a deux qui disent ça. Lénine et Averroès. Pour nous, dans un réalisme philosophique, c'est pas réaliste, c'est le fruit d'une idéologie. Parce qu'en réalité, si j'interroge ce qui est en tant qu'être, pour savoir en quoi l'être, réfléchissez un peu, en quoi l'être ? Ça ne peut pas être la matière. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que la détermination première de l'être, c'est la substance. L'être, en tant qu'il est toujours déterminé. Donc, il n'est pas matière. Donc, votre question. Averroès et Lénine se sont trompés. Ils se sont mis le doigt dans l'œil. C'est pour ça qu'ils ont vu 1000 chandelles. Ils ont dit, la matière est cause propre de ce qui est. Je cherche d'où vient l'être. Mais je me pose des grandes interrogations. D'où l'être ? Cause efficiente. L'être comme tel n'a pas de cause propre efficiente. Alors ça fait surgir. Je dis, mais oui, l'être, il provient de Dieu. Attention, attention. Tel être vient de Dieu, mais pas l'être. L'être est un principe. L'être est une cause. Dieu est cause ultime et première de ce qui est, mais pas cause propre. Donc, là aussi, pas. En vue de quoi ? En vue de quoi l'être ? Alors là, je découvre l'être en acte. Donc, vous voyez, la métaphysique n'implique que deux grandes recherches. La recherche de la cause formelle, la cause selon la forme de ce qui est la substance, la cause en vue de quoi être en acte. Et ce sont deux grandes inductions. C'est par une induction. C'est par une induction que je découvre la substance. C'est par une induction que je découvre l'être en acte. Qui est la saisie ultime? C'est l'Himalaya de la philosophie. C'est la saisie ultime au point de vue philosophique. C'est là où mon intelligence est la plus pénétrante. Je distingue l'être en acte de l'être en puissance. Comme ici, je distingue la substance des accidents. En vue de quoi l'être en acte? Après avoir découvert la substance et l'être en acte, je découvre la propriété, comme toujours, une connaissance scientifique à partir des causes et des principes découle la propriété. Quelle est la propriété de l'être? C'est l'un. L'être, en tant qu'il est un. L'unité qui s'appuie sur la substance et l'unité qui s'appuie sur l'acte. Il y a donc deux modalités d'unité. Tandis que la multiplicité repose et se fonde sur l'être en puissance et sur l'être accidentel. Je vous dis ça rapidement, mais c'est intéressant de pouvoir bien comprendre que l'un et le multiple ne sont pas des principes, à la différence de la position des néo-platoniciens qui font de l'un ce qui est ultime, alors que l'un est acolyte de l'être, il accompagne l'être, propriété. Et le dernier problème de la philosophie première, c'est le problème de la personne. Si je fais de la philosophie première, c'est pour connaître l'être, c'est pour connaître l'homme comme personne. Comprendre ce que c'est que la personne au niveau philosophie première. La personne au niveau philosophie première est une substance spirituelle, l'âme, impliquant le corps, impliquant une recherche de bonheur. La personne, c'est un être qui est capable de se dominer de responsabilité et qui cherche le bonheur. L'animal ne cherche pas le bonheur. C'est ce qui distingue la personne. Quelqu'un qui ne cherche plus le bonheur, il a oublié d'être une personne. C'est le bonheur qui finalise tout. Et comme il y a une très grande diversité d'opérations en raison de l'âme et du corps, la personne va impliquer une certaine unité, une unité qui viendra de la fin du bonheur. Ma vie, ma personne s'unifie par la recherche du bonheur. Et je n'ai pas d'autre unité que cette recherche du bonheur. C'est pour ça que l'unité de chaque personne d'entre nous a des modalités différentes en raison du bonheur qu'il recherche. La contemplation ou l'amitié. Parce qu'il y a deux bonheurs véritables. C'est pas l'argent, c'est pas la gloire, c'est pas la santé. Le bonheur, c'est ou l'amitié ou la contemplation. Alors, la philosophie première se termine donc par le problème de la personne humaine. Mais, alors là, ce serait très intéressant, je vais hésiter de commencer par ce sommet très bien pour les gens qui restent assis. Et c'est justement fait pour ceux qui ne restent pas assis. Merci. Voyez, ce qui serait très intéressant maintenant à faire, c'est de voir comment toute la philosophie qu'on a vue, tout ce qu'on a vu, s'achève dans la recherche de la personne. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine ? La personne humaine est capable de transformer le monde. Le travail. Le travail est intégré dans ma personne. Quelqu'un qui ne travaille pas diminue sa personne. Bon, ça, c'est le meilleur moyen de travailler. Et là, vient perfectionner la personne. C'est quelque chose de qualitatif pour la personne humaine. C'est quelque chose de grand pour la personne humaine. Donc la personne implique le travail. C'est essentiel. Mais là, on rejoint tout l'enseignement actuel de l'Église. C'est ça qui est intéressant. C'est récent, vous savez. Avant Léon XIII, on ne parlait pas de travail dans les encycliques. C'est pour ça qu'on a le droit de dire que Léon XIII a été comme une révolution. Parce que l'Église est intéressée au travail. Des travailleurs, des ouvriers. L'Église est intéressée au travail des artistes. Elle était mécène des grands artistes. Mais le travail des ouvriers, ça n'est pas beaucoup occupé. Léon XIII. Et puis, l'encyclique nouvelle, 100 ans après. Donc, le travail est essentiel à la personne. L'amour d'amitié. La coopération. Parce que l'homme, une personne humaine, vit en communauté. Ah, elle peut vivre aussi en ermite. Mais l'ermite, c'est celui qui sait vivre en communauté. L'ermite qui va être seul pour ne pas vivre en communauté, c'est pas un ermite. Il se replie sur lui. Donc il n'est plus un homme. C'est la parole d'Aristote qui est terrible. Le solitaire, il est ou Dieu ou un animal. Le solitaire, il est solitaire parce qu'il contemple. Donc au-delà de la communauté. Alors, j'ai le droit de ne plus être en communauté si je suis un contemplatif. Autrement, la solitude me rendra infra-humain. Parce que celui qui est à côté de moi exige que je ne dorme pas toute la journée. Tandis que quand je suis seul, je peux dormir toute la journée. Personne ne vient me gêner. Je suis tranquille, je dors. Puis pendant que je dors, je ne mange pas. Très économique. La personne humaine, par le corps, elle intègre le corps. Par le corps, je suis parti de l'univers, du tout. De l'univers, du grand univers. Je suis un vivant. En tant que vivant, j'ai une autonomie. Et je suis un être capable de réfléchir. En tant qu'être, je suis capable de réfléchir, je suis capable de comprendre. J'ai conscience. La personne humaine a conscience de ce qu'elle est. Les psychologues, je crois que la meilleure définition de la personne au niveau psychologique, c'est celle que donne Audier, Charles Audier. Charles Audier a beaucoup étudié auprès d'une... Il est mort, il n'est pas si longtemps, mais il a cherché ce que représente la personne et la genèse de la personne. Il dit que la personne représente les sentiments du bois. Il est psychologue. Les sentiments forts du moi. Et il y a trois sentiments du moi. Premier sentiment, le sentiment de la sécurité, de l'autonomie, de la valorisation. Trois sentiments du moi fort, qui lutte contre... Qu'est-ce qui est contre la sécurité? C'est justement l'angoisse. Si je suis angoissé, je n'ai plus un sentiment fort du moi. L'autonomie, c'est l'aliénation. Et la culpabilité. Voilà les trois. On comprend très bien que c'est cette conquête de la personnalité au point de vue psychologique implique toujours la lutte contre l'angoisse, contre l'aliénation, contre la culpabilité. L'angoisse regarde le futur. L'aliénation regarde le présent. Et la culpabilité regarde le passé. Donc la personne humaine s'inscrit dans le temps et à travers le temps. Et c'est la conquête de mon moi fort. Alors vous voyez, c'est très bien de dire ça. C'est très intéressant au point de vue psychologique. Mais ça ne me dit pas comment je peux acquérir tout ça. Parce que on ne dit rien sur la finalité. Tandis qu'ici, je retrouve quelles sont les vraies fins de l'homme. L'amour d'amitié. La contemplation. Nous allons le voir. Et je vois que le conditionnement de l'homme vient du corps. Je suis donc un être qui doit se conquérir tout le temps. Je suis maître de ma personne. Et je dois conquérir ma personne. L'âme est créée par Dieu, mais pas la personne. Quand vous voyez un petit enfant, vous ne dites pas « Oh, quelle belle personne !» Vous ne dites pas ça, hein. Un enfant dans le berceau, c'est une promesse de personne. La personne, on la conquiert. On devient une personne. On devient une personne. Mais on devient une personne en choisissant une finalité, l'amitié et la contemplation. En comprenant le conditionnement dans lequel je suis, en essayant d'acquérir une autonomie. Mais l'autonomie n'est intéressante que si on a une finalité. Alors vous voyez que de cette manière, je vois une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six dimensions de la personne humaine. Toutes les parties de la philosophie me permettent à ça. La dernière partie de la philosophie va me permettre de comprendre l'existence de la source première de tout ce que je suis. Ce que les traditions religieuses appellent Dieu. C'est la dernière partie de la philosophie. Et c'est la philosophie première qui pose le problème. Je crois qu'aujourd'hui, le fameux problème des preuves de l'existence de Dieu. Vous savez, quel est celui, le premier qui a dit ça ? preuve de l'existence de Dieu, c'est Descartes. On ne doit jamais dire preuve de l'existence de Dieu. On doit dire comment la personne humaine découvre, dévoile l'existence d'un être premier, d'une substance première, de l'acte pur, que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas philosophique. Comprenez dans quel sens, hein ? Le philosophe découvre l'être premier. Il découvre l'acte pur. Il découvre l'esprit premier, l'intelligence première. Il découvre une personne première. Et il dit, cette personne, c'est bien Dieu. Vous voyez le fameux problème de Pascal, le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des chrétiens. Faisons grande attention. Il a raison et il n'a pas raison. Il a raison en ce sens que il est en présence de Descartes. Et le Dieu de Descartes n'est pas le Dieu des chrétiens, ça c'est sûr. Puisque le Dieu de Descartes, c'est celui qu'on utilise pour montrer la vérité. Utiliser Dieu, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas utiliser Dieu. Or, Descartes se sert de Dieu pour donner raison à ses raisonnements. Alors, je comprends très bien Pascal qui dit « Le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des chrétiens. » Mais si je prends une philosophie réaliste et si je me pose la question à partir de la personne humaine, ma personne, moi, c'est moi qui pose le problème. Existe-t-il un être plus grand que moi-même? C'est ça la question. Hein. La question de Dieu est personnelle. Elle est universelle, mais elle est personnelle. Je ne peux pas découvrir un Dieu universel. Je ne découvre qu'un Dieu personnel. C'est très très important pour nous de comprendre ça. C'est pour ça que la science, qui reste dans l'universel et les lois, ne peut pas découvrir Dieu. Impossible. Parce qu'elle reste dans l'universel. Dieu, s'il existe, c'est l'être le plus personnel qui soit. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il est source de toutes les réalités. Il est au point de départ de toutes les réalités. Alors c'est pour ça qu'il faut reposer le problème au plan philosophique, au plan métaphysique, à partir de la personne. La métaphysique, la philosophie première, s'achève au problème de la personne. Et je me pose la question, est-ce que la personne est l'être premier? La personne humaine. Est-ce que la personne humaine est l'être premier? Je peux tout de suite répondre. La personne humaine ne peut pas être l'être premier. Pourquoi? Parce qu'elle est multiple. À côté de moi, j'ai un voisin qui m'empêche de dire que je suis Dieu. Vous savez bien, c'est le type qui va dans un asile d'aliénés, de pauvres types qui sont là, qui ne savent plus très bien ce qu'ils disent. Et alors, il rencontre tout de suite un type qui lui dit « Vous allez rencontrer un autre qui va dire qu'il est Dieu. » Mais non, il n'est pas Dieu. Parce que moi, je suis fils de Dieu et je sais bien que ce n'est pas mon père. C'est authentique, c'est vrai ça. Parce qu'on on a toujours une nostalgie d'être Dieu. La nostalgie la plus grande qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est d'être Dieu. Or, si je suis Dieu, mon voisin, qu'est-ce qu'il est? Mon voisin, il ne peut pas être Dieu. Il n'y a pas de multiple Dieu. C'est impossible. Donc, je peux tout de suite dire que la personne humaine ne peut pas être le premier parce qu'elle est multiple. Alors, existe-t-il? C'est comme ça qu'il faut le poser. Existe-t-il un être premier au-delà des personnes humaines? Puisque la personne humaine est le sommet de tout ce que je vois. L'expérience la plus forte que je fais, c'est l'expérience que je fais en disant « je suis ». C'est très fort comme expérience. Hein. Réfléchissez bien, je suis, j'existe. Et quand je dis « j'existe », je sais que c'est la plus grande expérience que je peux faire. Et c'est vrai ça. J'existe en mon amour, j'existe en ma recherche de la vérité. J'existe aussi dans mes faiblesses, dans mon conditionnement, j'existe dans mon corps. Tout le problème de la personne humaine, plan métaphysique, plan philosophie premier. Alors je me pose la question, existe-t-il un être premier au-delà de la personne humaine? Alors je peux très bien dire, je n'arrive pas à dépasser ça, mais je me pose la question. Tout philosophe doit pouvoir se poser la question. Existe-t-il un être premier au-delà de la personne humaine? Et je pars à partir de l'amour, d'amitié, puisque c'est de fait l'expérience affective la plus parfaite que j'ai. L'expérience la plus parfaite que j'ai de l'homme, c'est dans l'amour d'amitié. Ça, c'est sûr. Là, je découvre vraiment ce qu'est l'homme. Et je me découvre toujours d'eux. Donc là, je découvre que je ne peux pas être Dieu. Je ne peux pas dire à mon ami, tu sais, je te donne un grand secret. Hein. Un grand secret. Je suis tué par le fait même, toi, tu es mon serviteur, tu es mon esclave, tu as été créé par moi, tu ne le sais pas, mais tu le comprendras un jour. C'est le grand secret de l'amitié. À partir de là, l'amitié est rompue. Il n'y a plus d'amitié. Impossible. Absolument impossible. Et là, la grande question, comment, à partir de l'amour d'amitié, je peux voir que l'existence de l'amour d'amitié, l'existence de deux amis, exige de poser un être premier, qui est une personne et qui est amour. C'est la chose la plus belle au plan philosophique. C'est très fort, ça. Vous voyez, je repose tout le problème classique des preuves de l'existence de Dieu qui ont été mal posées. Parce que ce que saint Thomas nous dit n'est pas au niveau métaphysique, c'est au niveau de la théologie. C'est un problème critique. On a répété les voies d'accès de saint Thomas. Alors je crois qu'aujourd'hui, face aux idéologies athées, il faut partir d'un point de départ que les philosophies athées n'ont absolument pas touché. Le problème de l'amour d'amitié. C'est un grand problème humain. Or, dans l'amour d'amitié, ça existe. L'ami existe, j'existe. Et je regarde l'exister de l'ami. Et je regarde mon exister dans l'ami. L'ami existe et j'existe. Or, l'ami est source d'amour pour moi, et je suis source d'amour pour lui. Mais mon exister est au-delà de l'amour. Puisque je peux mourir bien que mon ami ne veut pas que je meure. Mon exister est au-delà. Mon exister demande dans l'amour d'être absolu, éternel. Or, mon exister est limité. Je peux disparaître dans ma propre personne d'amis. Je suis donc limité dans mon exister, alors que mon amour appelle un exister absolu. Il faut donc qu'il existe un être au-delà de moi, au-delà de mon ami, qui soit source de mon exister et de mon amour. Thank you. je me sers alors du principe de causalité finale. Parce que je ne peux découvrir l'existence de l'être premier que par la causalité finale. Toutes les apologétiques du début de ce siècle voulaient prouver l'existence de Dieu par la causalité efficiente. Je remonte. Et c'est l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui est premier, la poule ou l'œuf? On peut remonter à l'infini. Et là, la polyvétique dit, oh non, on ne peut pas remonter à l'infini. Donc, il existe nécessairement un être premier. Mais non, ça ne prouve rien du tout. Dites que vous ne connaissez pas. C'est comme le Big Bang d'aujourd'hui. Le Big Bang d'aujourd'hui ne prouve rien. Absolument rien. Il prouve qu'il y a une limite à la science. C'est tout. Et la limite à la science ne prouve pas que Dieu existe. La limite à la science ne prouve pas que l'univers commence par le hasard. Donc la limite à la science prouve que la science n'est pas tout. Et puis c'est tout. Ça ne prouve rien d'autre. La cause efficiente ne peut pas aboutir à un premier. Seule la finalité. Et la finalité montre que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Or, ce qui est limité en raison de sa puissance. Donc, la limite que je constate dans mon être en aimant l'ami et la limite que je découvre dans l'ami parce que je l'aime montre que je ne suis pas premier dans l'ordre de l'être et que je dépends essentiellement d'un être premier. Évidemment, il faut y réfléchir. Mais je crois que c'est l'argument philosophique le plus fort. C'est par l'amour d'amitié. Vous voyez, l'amour d'amitié permet la philosophie éthique. L'amour d'amitié repensé au niveau métaphysique. C'est-à-dire la personne de l'ami. Que je regarde comme être capable d'aimer. Donc un être spirituel capable d'aimer, qui rencontre un autre être, me permet de découvrir un être premier. Sous la lumière du principe de finalité. Un être premier qui, lui, est amour dans son être premier. Sans aucune limite. C'est par l'amour que je peux être le plus proche de l'exister de Dieu. Mais un amour lucide, un amour parfait, qui est l'amour d'amitié, qui unit personne à personne. Alors, je peux ensuite donner les différents aspects. Je peux regarder toutes les modalités de la personne humaine. Et chacune des modalités de la personne humaine me permettra de montrer qu'il y a nécessairement un premier être qui est une personne. Et cette personne seule peut dire « je suis ». Parce que c'est elle qui est identique à son être. Donc voyez, à ce point de vue-là, que la philosophie première, est la seule qui me permet de dépasser le problème de l'homme, de dépasser vraiment l'anthropologie, pour saisir que l'homme que j'expérimente est une créature. Puisqu'une fois que j'ai découvert l'existence de l'être premier, je me pose la question, quelle est la relation qui existe entre cet être premier et moi-même. Et je vois que je suis nécessairement totalement dépendant de cet être premier, le problème de la création. il y ait la septième dimension de la personne humaine, elle est une créature. Et à partir de là, se pose le problème philosophique de l'éthique religieuse. La créature doit adorer son créateur. Et c'est le problème philosophique de l'adoration. L'adoration, c'est la réponse que l'homme donne à son créateur. Il reconnaît qu'il est totalement dépendant de cet être premier qui est l'amour. Et toute la philosophie, l'éthique religieuse repose sur l'adoration. Et philosophiquement, je dois parler d'adoration. Évidemment, on n'en parle pas beaucoup en Sorbonne. Pourquoi ? Parce qu'au fond, aujourd'hui, il n'y a plus que des idéologies. Et l'idéologie ne peut pas parler de Dieu. Alors que le mot philosophie veut dire ami de la sagesse, philosophia, philosophie, l'ami de la sagesse. Et la sagesse dépasse la science pour chercher la cause ultime. Pour chercher ce qui est premier. Donc toute la philosophie est tendue vers la sagesse et la découverte de l'être premier. Et quand j'ai découvert l'être premier qui est Dieu, qui est le Créateur, je peux alors à ce moment-là comprendre que je suis une créature totalement dépendante de l'être premier. Et que l'acte propre de la personne humaine reconnaissant qu'elle est une créature, c'est l'adoration. Vous voyez comment l'adoration au plan philosophique présuppose la métaphysique, la philosophie première, pour vraiment penser ce que c'est que l'adoration. Alors, par la foi, je peux tout de suite. Par les traditions religieuses, je peux, en attendant. Puisque les traditions, c'est toujours en attendant. Que je vois clair, parce que ce n'est pas lumineux, les traditions religieuses. Mais par la philosophie, et la philosophie première, je comprends que je suis une créature totalement dépendante de l'être premier. Et que l'acte créateur est un acte d'amour. Vous pourrez dire, vous voyez, que toute la philosophie se termine par l'acte d'adoration. Et l'acte d'adoration est un appel vers la contemplation. Cet être premier, ce créateur, je peux le contempler. Parce que je suis attiré vers lui. C'est lui qui peut seul finaliser toute ma vie. Alors, pour finir, Nota Bene, en plus de ce périple que nous avons fait, dites qu'il y a deux aspects de réflexion sur tout cet itinéraire. Ce qu'on appelle la critique et ce qu'on appelle la logique. Ce sont deux aspects appendices à la philosophie, qui naissent à partir d'une réflexion critique. Je peux réfléchir sur le cheminement de ma pensée. Je peux réfléchir sur le fait qu'à chaque moment de mes démarches philosophiques, je peux situer exactement où je suis par rapport à l'expérience. C'est ça qu'on appelle la critique. Être lucide sur mon cheminement philosophique. Ce que nous avons essayé de faire, ce cheminement philosophique. ces sept dimensions de la personne humaine. Et du reste, pour sept dimensions de la personne humaine. C'est pas pour le plaisir d'arriver à sept, mais c'est un fait. On arrive à sept dimensions. Et c'est très éclairant, du reste. C'est extraordinaire parce que c'est les sept dispositions aux sept dons du Saint-Esprit. C'est normal. Il doit y avoir un parallélisme très étonnant entre ce que le philosophe découvre et ce que la foi dit. Les sept ailes de l'aigle, de l'Esprit Saint, qui vient prendre la personne humaine pour en faire une personne divine, fils de Dieu, par les sept dons du Saint-Esprit. Alors, il y a donc la critique. Je réfléchis sur le cheminement de mon intelligence. Et puis il y a la logique. La logique réfléchit sur l'universel, qui est un être de raison. L'universel. Quand vous pensez blancheur, c'est universel. Quand vous pensez blanc, c'est universel. Puisque vous pouvez dire le blanc du mur, le blanc du visage, le blanc du costume, le blanc de la neige, le blanc, c'est universel. C'est l'intelligence qui saisit l'universel. Et c'est l'intelligence qui fabrique l'universel. L'universel n'existe pas dans la réalité. Mais il y a un fondement. Parce que l'intelligence abstrait. Alors, elle abstrait diversement. Il y a des niveaux différents d'abstraction. Il y a le niveau premier d'abstraction, philosophie de l'art. Second niveau, philosophie éthique. C'est à peu près le même niveau. À peu près. Puis après, philosophie de la matière, philosophie du vivant, philosophie première, théologie naturelle. Mais il y a des niveaux différents. On s'élève progressivement. Des niveaux d'intelligibilité. Et vous trouvez chaque fois l'universel. Alors on distinguera l'universel univoque, les cinq prédicables, genre, différents spécifiques, espèces, propriété, accident, les cinq prédicats. Puis vous arriverez à découvrir l'universel analogique. Parce que l'analogie est le fruit de l'abstraction. Et c'est l'intelligence qui arrive à distinguer ce point de vue de l'analogie. Alors voilà, c'est pour vous donner un petit peu de désir d'approfondir la philosophie. C'est l'apéritif. C'est vrai, parce que c'est... Il ne faut pas vous inquiéter. C'est toute notre vie où on fait de la philosophie. Une fois qu'on a mordu à la philosophie, on ne la quitte plus. On ne la quitte plus. Parce qu'on comprend que c'est nécessaire à notre vie humaine. Et c'est nécessaire à notre vie chrétienne. Si on veut être un chrétien intelligent. Parce que la foi ne nous rend pas nécessairement intelligent. Mais c'est ennuyeux, un chrétien bête. J'aime mieux rencontrer des chrétiens intelligents. Parce que, à ce moment-là, alors intelligent, comprenez bien, on a des intelligences diverses, analogiques. Il y a des gens qui sont très intelligents du côté de l'homme.